RMC Intégral Tour, Christophe Cessieux.
Bonsoir à tous, bienvenue à Morzine, terme de la 20e étape de ce Tour de France. C'est quasiment la dernière étape puisque demain, vous le savez, l'arrivée à Paris sur les Champs-Élysées, c'est plus une marche triomphale pour le vainqueur de ce Tour de France et qui sera donc à moins d'un accident improbable. Christopher Froome qui remporte là son troisième Tour de France. On va en parler jusqu'à 20h avec toute l'équipe. Mais tout d'abord, la deuxième édition du Journal des Sports avec Benoît Boutron qui est avec nous. Salut Benoît.
Salut Christophe, salut à tous.
Alors évidemment, Chris Froome vainqueur, mais ce qui retient l'attention côté français, c'est la deuxième place de Romain Bardet qui sera sur la deuxième marche du podium demain sur les Champs.
Et oui, le Français va terminer dauphin de Christopher Froome sur ce Tour de France, la meilleure performance de sa carrière sur la grande boucle. Bardet qui a limité les risques dans cette 20e étape remportée en solitaire par l'Espagnol Jon Izagirre à Morzine. Bardet termine un peu plus de 4 minutes de Chris Froome. Le Britannique, victime d'une chute hier, peut enfin savourer ce succès.
Such a feeling of relief.
C'est un tel sentiment de soulagement.
Obviously, also in that way, just for my teammates all around.
De gagner une nouvelle fois.
Stiff out there.
Oui, j'étais marqué par ma chute.
The legs were better than they were yesterday.
Mais les jambes étaient meilleures que ce qu'elles étaient hier.
Oh, what can I say?
Qu'est-ce que je peux dire?
So relieved.
Je me sens si soulagé.
Soulagé
d'avoir terminé cette étape.
Just kept on raining on and off. It was just feels so good to have that out the way now.
C'est tellement bon d'avoir fait le chemin et d'y être maintenant.
Chris Froome avec Pierre-Yves Leroux, le leader des Sky, remporte son troisième Tour de France, le deuxième d'affilée. Romain Bardet et Nairo Quintana complètent le podium. Adam Yates, quatrième au général, s'offre le maillot blanc. Maillot à poids de meilleur grimpeur pour le Polonais Rafa Majka. Et puis coup double pour Peter Sagan, maillot vert de ce Tour de France et élu super combatif cette année. Teddy Riner, plus que favori pour être désigné porte-drapeau français aux Jeux Olympiques de Rio. L'annonce sera officialisée demain soir sur les Champs-Élysées à l'occasion de l'arrivée du Tour de France, la dernière étape évidemment. Dimitri Bascou, vainqueur du 110 mètres haies au meeting de Londres cet après-midi, pense que Riner sera un excellent représentant.
Bien sûr, je connais Teddy, hein. On a intégré l'INSEP quasiment en même temps. Je quitte l'INSEP il y a maintenant 4 ans, mais voilà, on a pu même faire en classe ensemble et c'est il mérite carrément d'être le porte-drapeau de la délégation et ouais, c'est une fierté et puis j'espère que lui aussi il sera fier de porter ce drapeau et puis qu'il va s'amuser comme d'habitude aux Jeux Olympiques.
Dimitri Bascou avec Fabien Fougeret.
RMC, le Mercato Show.
Marseille engage le frère cadet de Michy Batshuayi, Aaron Leia Iseka, est prêté une saison sans option d'achat par Anderlecht. Bafétimbi Bigomis et Clinton Enji devraient eux aussi renforcer l'attaque de l'OM. Marseille qui a un nouveau directeur sportif depuis hier soir, le Belge Günther Jacob. Et puis Gonzalo Higuain, plus que jamais proche de la Juventus de Turin. D'après les médias italiens, l'attaquant argentin du Napoli a passé sa visite médicale. Les dirigeants turinois ont accepté de payer la clause de départ du joueur, 94 millions d'euros. Enfin, la Formule 1 avec la pole position pour Nico Rosberg au Grand Prix de Hongrie devant Lewis Hamilton et Daniel Ricciardo. 11e place pour le Français Romain Grosjean. Un Grand Prix à suivre dès 14h demain sur RMC. 19h08, on retourne sur les routes du Tour, l'avant-dernière étape de ce Tour de France avec Christophe Cessieux et toute son équipe pour analyser la victoire d'Izagirre et la deuxième place de Romain Bardet surtout.
Et évidemment, on va parler de tout ça, de la victoire de Chris Froome qui rejoint un certain Greg LeMond et un autre certain Louison Bobet. On parlera de la deuxième place de Romain Bardet qui lui signe son premier podium sur les routes du Tour de France et pourquoi pas mieux l'année prochaine, on l'espère en tous les cas. Et puis nous allons revenir sur la victoire d'Izagirre, donc l'Espagnol de la formation Movistar qui a piégé tous les meilleurs descendeurs du monde. C'était tout à l'heure dans la descente de Jouplane en direction de Morzine. Tout de suite le replay de l'étape.
Jon Izagirre, 27 ans, coureur basque de l'équipe Movistar, casque jaune sur la tête car il fait partie de la meilleure équipe du Tour, la Movistar. Jon Izagirre qui était aux côtés de Nairo Quintana, aux côtés d'Alejandro Valverde pour l'ensemble de ce Tour de France. Et depuis que Quintana a baissé pavillon pour la victoire finale sur le Tour de France, eh bien il a eu un bon de sortie. Il a déjà remporté, on l'a dit, une étape sur le Tour d'Italie. Il arrive sous la pluie battante à 400 mètres de la ligne d'arrivée ici à Morzine. Il file vers le plus beau succès de sa carrière, lui qui est champion d'Espagne du contre-la-montre en titre. Il ne fléchira pas, il ne faiblira pas dans le final de cette dernière grande étape du Tour. Demain, traverser les Champs-Élysées. Et s'il voulait prendre la lumière, c'était bien sous la pluie de la Haute-Savoie que Yann Izaguirre allait pouvoir s'imposer. Il termine au sprint, Yann Izaguirre. Il a beau se retourner, personne à l'horizon. Il va devancer en solitaire le Colombien Jarlinson Fantano. Il prend le temps de savourer le plus beau succès de sa carrière sous une pluie diluvienne. Yann Izaguirre, 27 ans, s'impose ici à Morzine.
RMC Intégral Tour.
Voilà, Yann Izaguirre, vainqueur donc de cette étape de prestige, la dernière étape de montagne de ce Tour de France, car demain, eh bien, ce sera la plaine et l'arrivée sur les Champs-Élysées. Yann Izaguirre, qui s'est imposé par surprise, Cyril Guimard. On n'attendait pas forcément l'Espagnol victorieux ici, d'autant qu'il était en compagnie quand même de certains grands descendeurs, ou réputés comme tels, comme Pantano par exemple, comme Nibali, ou un peu en retrait comme Julien Alaphilippe, qui a eu du mal à franchir le col avec les autres, mais on s'attendait plus certainement à une victoire de Nibali, qui a eu peur dans la descente, faut bien le dire, et qui n'a pas réussi à suivre le rythme imposé par Izaguirre.
Alors, Nibali, c'est un peu surprenant de le voir crispé, debout sur les freins dans cette descente, mais il faut se rappeler que hier il a chuté dans la descente de la côte de Mancy avec Christopher Froome. Et donc aujourd'hui il avait parfait les niveaux, il était littéralement bloqué. Tant qu'à Izaguirre, il faut quand même le dire, c'est un coureur qui a un talent immense, mais qui est surtout dans l'ombre de Valverde et de Quintana. Aujourd'hui il avait la porte ouverte, il l'a profité. Et puis il faut quand même dire qu'il nous a quand même énormément surpris, car il a descendu très très vite, sans la moindre erreur de trajectoire, sans la moindre erreur de freinage. Il est passé très très vite partout, et Pantano, qui avait raté un premier virage, mais qui n'était qu'à une cinquantaine de mètres, n'a jamais pu reprendre un centimètre, et on sait que Pantano descend très très vite.
Voilà, avec cette descente si rapide, j'ai oublié de saluer quand même Gégé Pinault et mon cher Bourgui, qui sont avec nous évidemment. Ça va les garçons?
Bonsoir, messieurs.
Vous n'êtes pas vexé, j'espère?
On a failli bouder.
Hein. Absolument, oui, oui. Absolument, si. Bah si, on l'est.
Ah oui,
on l'est.
Bon. D'ailleurs, on ne parlera pas. Tiens, voilà.
Ça va être bien pour faire du débat.
Enfin la paix.
On va avoir du mal.
Pour revenir sur cette descente, c'est vrai que Izaguirre, Jérôme, a fait une descente à tombeau ouvert. Sur une route détrempée, il faut quand même les avoir bien accrochés, comme dirait l'autre. Hein.
Oui, c'est sûr, il a fait une super belle descente, mais je pense que il était surtout le plus frais, le plus fort dans la dernière ascension, et ça aide quand on est lucide, quand on a les idées claires, ça aide à prendre des risques, on met le bon coup de frein. On l'a vu, Pantano est certainement le meilleur descendeur des trois, avec Nibali, mais hier il a chuté. Pantano a fait une erreur dès le premier virage, donc quand on sort dans le premier virage, après on a vraiment du mal à lâcher les freins, et Izaguirre profité.
Nibali avait chuté hier aussi, ouais, hein, mais il a un petit peu d'appréhension.
Nibali,
tendu sur son vélo,
comme l'a dit Cyril, il penchait le vélo dans le virage à gauche, mais le corps allait à droite, il était complètement désorganisé, il n'était pas synchronisé avec son vélo, et ça paye cash,
crispé,
quoi.
On était très très crispé. Dès qu'on est crispé, c'est fini, on passe pas.
Ouais, et pourtant, il a quand même des automatismes, Bourgui, de formidables descendeurs. Rappelez-vous ses descentes sur le Tour de France où il avait lâché tout le monde il y a 2 ans de cela. Hein.
Ah oui, non, mais on le connaît, gros descendeur. Bon, c'est vrai que c'était mouillé, mais un descendeur, quel que soit le temps, il se lâche dans les descentes. Bon, hier, ça lui a laissé quand même des traces, je pense, mais c'est Izaguirre qui a fait une descente exceptionnelle après une montée tout autant exceptionnelle, parce que je peux vous rappeler que Izaguirre était loin derrière Nibali. Nibali, j'avais l'impression qu'il montait déjà très vite, et Izaguirre est revenu comme une balle sur eux.
Alors, ce qu'il faut quand même ajouter, hein, c'est que c'est un Basque, et que les Basques sont habitués aux descentes sous la pluie.
Ça va faire plaisir aux Basques.
Et surtout, les routes basques sont très glissantes. Donc là, il devait sentir véritablement très très bien le grip par rapport à ce qu'il peut avoir sur les routes chez lui, donc il était en pleine confiance.
Ouais. En tous les cas, il sauve en quelque sorte le tour de la formation Movistar qu'on attendait pour la victoire finale sur ce Tour de France.
Première victoire d'étape pour les Espagnols. Et
exactement. Après,
on les a battus d'un jour. Hein.
On les a battus d'un jour, et les Italiens peut-être arriveront demain.
Zéro les Italiens.
Il faut qu'ils gagnent demain.
Il faudrait qu'il y ait une surprise quand même. Ouais. Ah ouais, mais là.
Demain, mais je sais pas s'ils ont.
Côté italien, ça va être compliqué
quand même. Hein.
Mmh. Alors, Nibali va nous faire un truc sur les Champs-Élysées. Ouais,
on verra. Alors, c'est vrai qu'on a espéré, on a rêvé à un moment donné dans cette étape d'avoir une deuxième victoire d'étape française avec Julian Alaphilippe qui était dans le groupe d'échappée et qui semblait virevolter dans la dernière ascension, le col de Jouplane. Il était en compagnie de Pantano. Il a plusieurs fois largué Pantano avant que celui-ci revienne à chaque fois au train. Et c'est vrai qu'il a sans doute laissé un peu trop de jus dans cette histoire. Et ensuite, lorsque Izaguirre est revenu sur les hommes, après Nibali déjà, eh bien, il n'a pas pu s'accrocher. Il n'a pas pu basculer en même temps que les autres au sommet de Jouplane. Et donc, il laisse échapper une nouvelle fois une victoire d'étape. Ça fait beaucoup quand même sur les routes de ce tour, Jérôme.
Ah oui, ça fait beaucoup. Tu sais, moi qui étais un coureur moyen, si toute ma carrière, j'ai rêvé de gagner l'étape du tour. Et si j'avais eu ne serait-ce que la moitié de la force à Julian Alaphilippe, ce soir, je serais vraiment très, très déçu. Parce que il avait une, voire deux victoires d'étape dans les jambes. Il a fait une grosse erreur tactique l'autre jour suite à son problème mécanique à Culose. Il a un peu paniqué. Je pensais qu'il avait appris de ses erreurs. On l'a vu faire des grands numéros un peu en chasse-patate le lendemain à Berne avec Tony Martin. Mais aujourd'hui, Julian, s'il se tient dans la dernière montée, s'il se préoccupe seulement de suivre Pantano et Nibali ensuite, et voire même Izaguirre, il gagne l'étape. Et là, il dit, il est content, il s'est fait plaisir, il a fini le tour. Comment peut-on dire ça quand on a un talent comme le sien? Moi, je suis déçu pour lui, je l'aime beaucoup, mais ce soir, je ne comprends pas son discours, parce que il doit gagner une étape comme ça, qu'il fasse attention, parce que de la forme qu'il a cette année, il n'est pas sûr de l'avoir les saisons prochaines. Et une victoire dans le tour, c'est quand même de prestige, surtout sa première année. Là, je suis désolé, il a vraiment fait preuve de manque de finesse, de manque d'intelligence tactique au minimum.
On va l'écouter justement son discours, Julian Alaphilippe qui s'exprimait après l'arrivée, très déçu évidemment d'avoir laissé échapper cette étape. Julian Alaphilippe.
Je me plains pas, je suis super content d'avoir pu être devant aujourd'hui. Ça me tenait à cœur parce que voilà, c'était la dernière opportunité et même si je me sentais quand même fatigué ces derniers jours, surtout hier, j'ai tout voulu donner aujourd'hui, enfin j'ai voulu tout donner tout ce qui me restait quoi. Du coup voilà, je suis content d'avoir fait cette journée, mais quand même déçu de pas avoir gagné, mais honnêtement je pouvais pas faire mieux, j'ai tout donné.
Alors on va revenir sur la réaction de Julian Alaphilippe, mais tout de suite on va à la conférence de presse que tient à l'heure actuelle Romain Bardet, qui vient d'entrer en conférence de presse. On va écouter les premières réponses.
Moi, Romain Bardet, tu nous éclaires un petit peu sur l'espèce de sérénité qui t'a accompagné et qui me semble tenir une part importante dans ta performance, dans la régularité de ton parcours. Est-ce que tu soupçonnais ça?
C'est le confrère du Parisien, Lionel Chamy.
Non, c'est une lente évolution, une lente progression dans ma carrière. C'est la correction de facteurs environnementaux qui me perturbaient auparavant. Je laissais beaucoup d'énergie sur des détails et qui me polluaient un petit peu ma performance. Et là, je pense que j'arrive vraiment à exploiter 100% de mon potentiel maintenant sur le Tour de France. Et en troisième semaine, toute cette énergie que j'ai pu, je dépense pas en première et deuxième, en faisant mille schémas tactiques, en ayant l'impression de jouer ma vie chaque jour, et ben c'est ce qui me fait pédaler plus fort dans la troisième semaine et créer des écarts. Donc c'est vraiment les acquis de l'expérience, cette capacité maintenant aussi à relativiser le sport que je fais, davantage le prendre comme un jeu. On est sur le tour, mais il faut essayer de relativiser et prendre ça, surtout pour essayer de prendre du plaisir. Et ce qui n'était pas forcément le cas sur mes premiers tours de France.
Voilà, on écoute le début de la conférence de presse que donne actuellement Romain Bardet, qui va donc monter demain sur la deuxième marche du podium pour la première fois de sa carrière.
Derrière Christopher Froome, donc sur le Dauphiné, et désormais sur le Tour de France, quelle est ta nouvelle ambition?
Non, actuellement, ça ne change rien. C'est vrai que sur le Dauphiné, on était en proche de l'exploit, parce que je pense en y croyant un peu plus, on pouvait renverser la course le samedi. J'en suis maintenant convaincu. Autant sur ce tour, c'est vraiment la meilleure place que je pouvais espérer. Et toute chose égale par ailleurs, c'est vrai que c'était... Là, c'est dingue. Et puis bon, il y a 4 minutes d'écart en général, il y a un fossé. J'en suis parfaitement conscient. Là, j'ai fait le maximum sur ce tour. Il n'y a aucun regret à avoir. Autant sur le Dauphiné, c'est vrai que j'avais pas assez cru en moi. mais ça a été vraiment fondateur dans ma réussite du Tour, puisque j'ai appris de mes erreurs sur cette course-là, et surtout ça m'a servi pour ne plus les commettre sur cette épreuve au mois de juillet.
Alors, on vous rappelle qu'on écoute le début de la conférence de presse de Romain Bardet, hein. Deuxième demain à 25 ans quand même pour la première fois de sa carrière. La conférence de presse, on écoute les réponses de Romain Bardet.
Penses-tu que des vélos à moteur aient été utilisés ces dernières années sur le Tour de France?
Qu'est-ce qui pourrait, c'est vrai que on a un Team Sky qui est vraiment, je dirais presque hégémonique, parce que encore aujourd'hui, sur 25 coureurs, avoir 5 représentants de leur équipe, qu'est-ce que vous voulez faire? Je vais pas attaquer quand il y a de la plaine, voilà, c'est vous à l'échec. Donc ils ont une force collective impressionnante, et c'est vrai que ça annihile les ambitions de beaucoup d'attaquants. Ensuite, sur la question des moteurs électriques, c'est vrai que c'est difficile de se prononcer. Cette année, je pense que on n'a rien vu d'ahurissant. Je ne mettrai pas ma main coupée pour le passé, mais je préfère pas y penser, parce que de toute façon, ce que je remarque et ce que je tiens à souligner, c'est que des mesures ont été mises en œuvre, et maintenant ça doit être vraiment une non-question.
Voilà la conférence de presse de Romain Bardet. On écoutera les meilleurs moments ce soir et demain dans la matinale d'RMC Sport et de BFM Sport. Donc Romain Bardet qui s'exprimait, hein, il est en conférence de presse juste après la conférence de presse que vient de donner également Christopher Froome. On reparlera et on évoquera tout à l'heure la deuxième place de Romain Bardet. Mais tout d'abord, on revient donc sur cette manière de courir de Julien Alaphilippe. On n'a pas entendu votre analyse, messieurs Guimard et Bourguignon. Est-ce que vous avez été séduit comme la plupart des gens sur les réseaux sociaux qui vraiment remercient Julien Alaphilippe de leur avoir donné du frisson sur les routes de ce Tour de France, ou plutôt justement agacé par sa manière de courir et le fait qu'il n'ait pas remporté l'étape alors qu'il en avait certainement dans les jambes. Cyril d'abord.
Je voudrais dire que virevolter, c'est le terme qui a été utilisé tout à l'heure, virevolter, ça n'est pas gagner. Et c'est vrai que c'est Frédéric Adam qui disait qu'il y avait un peu de virinque dans Alaphilippe. Quelque part, oui, c'est pas tout à fait faux. Regardez la télévision. Non, bon, je crois qu'il y a un moment quand on veut gagner, il faut se concentrer sur ce qu'on a à faire. On essaye de le faire bien. Et c'est vrai que au moment où il aurait fallu se concentrer pour faire en sorte qu'avec Pantano, ils aient une progression plus régulière, donc qu'ils continuent à creuser des écarts, soit qu'ils maintiennent l'écart. Au lieu de ça, Julien a mis une première mine, une deuxième, une troisième. On sait que à partir de ce moment-là, la progression du duo n'était pas maximale, et que ces efforts-là en plus font très mal, et que par voie de conséquence, ça allait revenir de l'arrière. Ça a été vrai pour Nibali et ça a été vrai pour Izagir. Et puis après, qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, il a explosé. Bon, s'il avait bien couru, il basculait avec devant. Alors, quand on entend son discours qui dit oui, je suis content, mais bon, il y a un moment, il faut qu'il se pose les vraies questions.
Il basculait devant, mais effectivement, Nibali est en train de revenir derrière. On connaît la réputation de Nibali en tant que descendeur. Il a peut-être voulu larguer, enfin, avoir quelques mètres d'avance sur Nibali.
Non, il descend aussi vite que Nibali. Il descend très très vite. Non, il a pas de problème. Mais déjà pour gagner, il fallait être au sommet avec les meilleurs. Donc, s'ils avaient bien couru, ils seraient arrivés en haut, peut-être.
Ça veut dire quoi, bien courir, se laisser rattraper?
Non, il fallait faire un contre-la-montre dans la montée, c'est tout. Mais pas s'amuser à faire des accélérations.
C'est ce qu'il a fait, Cyril.
Qui il a fait quoi?
Je suis pas tout à fait d'accord avec toi.
Comment il a pas fait d'accélération?
Il tournait les jambes beaucoup plus. Non, il accélérait, mais parce qu'il se sentait bien et qu'il voulait partir dans cette bosse. Arrivé un moment, tu es deux coureurs. Si t'es le plus fort, pourquoi garder l'autre? Pourquoi garder l'autre? Non, s'il se sent de monter tout le col et de passer seul en tête.
Non, tu le sais. Tu sais très bien que si tu peux le larguer à 4 bornes du sommet, tu le largueras à 3. Et si tu peux le larguer à 3, tu le largueras à 2.
Mais à ce moment-là, il
fallait qu'il l'emmène le plus longtemps possible. Après, s'il avait véritablement les jambes, et on s'est rendu compte que Pantano, il avait les mêmes jambes que lui, puisque à chaque fois qu'il lui a pris 20 mètres, l'autre tranquillement il revenait, puis il a même mis une mine après. Et puis,
oui,
quand tu regardes en haut, Pantano est en haut, mais pas Alaphilippe.
Oui, mais Pantano a cette habitude de se faire décrocher en cas d'accélération de son adversaire, parce que le grand Colombier, il a fait la même chose avec Mascherano.
Mais quand tu le sais, il n'essaye pas d'attaquer.
Mais il l'a pas forcément attaqué, il a accéléré son rythme. Et l'autre n'a pas suivi. C'est pas une attaque franche comme peut faire un super grimpeur. Après, il montait. Moi, je sais pas. J'ai pas de. Je pense qu'il était un peu euphorique quand il s'est retrouvé tout seul. Il a présumé de ses forces, peut-être, mais ça l'a lâché d'un coup. C'est tout.
Tu sais à quoi il m'a fait penser aujourd'hui, moi, Julien. Tu sais à ces jeunes joueurs de foot, parce que tu sais que j'aime beaucoup le foot, qui vont éliminer 5-6 joueurs et au lieu de mettre pour conclure un plat du pied petit filet, ils vont vouloir dribbler le gardien et se mettre les pieds dans le tapis. Il m'a fait penser à ça aujourd'hui. Il a tellement voulu en faire et que la victoire soit belle qu'il s'est trompé de cible parce qu'il a voulu lâcher Pantano et il fallait plutôt garder à distance les mecs qui rentraient de derrière et au final il s'est fait prendre à son propre jeu.
Il s'est trompé d'objectif.
Et ce qui est difficile à accepter, Thierry, tu vois, c'est que ça fait deux fois avec le même coureur parce que Pantano l'autre fois il lui a fait la même.
Ouais, mais attends, la dernière fois c'est le grand Colombier, il a eu un problème mécanique, c'est franchement différent. Ne comparez pas l'étape de où il a eu le problème mécanique qui l'a mis hors jeu d'entrée alors que cette année, du moins aujourd'hui, je veux dire, excusez-moi, dans la montée, pour moi, c'était le plus fort, il se sentait plus fort. Pourquoi il aurait gardé Pantano? Pourquoi? S'il était persuadé d'être le plus fort et de partir gentiment à la victoire. Et dites-moi,
je suis d'accord avec toi, Thierry, je trouve que vous êtes un peu dur avec ce coureur. Non, mais on n'est pas dur, on est déçu.
Moi, encore une fois, je suis déçu pour lui parce qu'il a des jambes de feu pour gagner des étapes. Et à un moment donné, je sais pas, il y a une période où dans sa tête, ça décroche et tactiquement, il y est plus, quoi. Pour moi, il a fait encore des erreurs.
Jérôme, moi, je suis d'accord avec vous sur les deux étapes, du moins la première étape où il a eu un ennui mécanique, la deuxième étape où il allait faire un tour devant du dernier avec son équipier. Ça, c'est la stupidité, c'est dommage parce que c'est de la force gâchée à la rigueur qui aurait pu lui servir pour aujourd'hui. Mais aujourd'hui, je vois pas où on peut lui reprocher le quoi que ce soit. Il avait pas la jambe.
Ouais, c'est vrai qu'après sur le haut, il avait pas la jambe. Ça, c'est clair.
Mais oui, voilà. Et parce que c'est pas une accélération qu'il a faite pour décrocher Pantano qu'il a mis en jeu quatrième. C'est parce qu'il n'a pas pu suivre les coureurs qui arrivaient derrière avec.
Mais Pantano, oui.
Oui, mais Pantano, c'est son habitude de se laisser décrocher. Ne subit pas les accélérations. Oui, mais attends, et quand tu connais, moi pareil, quand il y avait un super grimpeur avec moi, j'essayais pas de répondre à ses attaques parce que je n'étais pas dans cette logique et que si je montais le curseur trop haut, eh ben j'allais péter le moteur. Donc c'est pas ça qui lui a fait péter le moteur. Mais Pantano, se connaissant, et moi il y a un moment j'ai même cru
qu'il était en jeu. Tu m'expliques, Bourgui, s'il a pas pété le moteur dans la montée quand même là.
De quoi là, Philippe?
Bah oui, il a pété le moteur.
Mais c'est pas sur l'accélération qu'il a faite.
Alors c'est sur quoi? Sur c'est parce qu'il a mal dormi cette nuit?
Mais non, c'est qu'il a pas la force pour continuer son effort aussi longtemps.
Et ben, donc c'est bien qu'il a pété le moteur.
Mais et alors s'il montait avec Pantano, tu crois qu'il aurait pu suivre
Nibali et Aguirre, mais non.
Je suis pas sûr.
Le problème, c'était pas de monter à la vitesse de Pantano, c'était de travailler avec Pantano pour pas que ça revienne de l'arrière.
Mais attends. Il y a un truc que j'arrive pas à saisir.
Pantano,
le ralentissait. A priori.
Pantano, il est en haut avec Izaguirre.
Alors sur la tactique, on va arrêter là parce qu'évidemment ça peut durer des heures, messieurs. Juste un petit mot sur Alaphilippe. Est-ce qu'un jour vous le voyez réaliser un grand Tour de France, rentrer dans le top 10? Est-ce qu'il peut jouer le classement général ou est-ce qu'il peut uniquement viser des victoires d'étape dans les années à venir, Cyril?
J'ai déjà répondu il y a longtemps, puisque c'est ce que j'ai dit il y a deux ans. Quand il a fait deuxième de Liège-Bastogne,
c'est vrai
que
vous en avez parlé de ce garçon.
Et je l'ai même dit à l'époque à l'antenne en disant, voilà un coureur, quand t'es capable de faire ce que tu fais à la Flèche Wallonne et à Liège-Bastogne, quand on regarde son rapport poids-puissance, pour moi, c'est un coureur qui grimpe.
Donc un coureur qui grimpe, c'est un coureur qui peut faire une bonne place au classement général.
Et moi, j'étais persuadé que sur ce tour, il pouvait faire un top 10. Mais faut pas courir de cette façon-là.
Ok. Jérôme,
tu reviendras sûrement avec
d'autres ambitions,
et peut-être plus canalisé, ouais, certainement. Moi, je fais confiance aux techniciens de cette équipe, qui sont de très bons techniciens.
Alors, moi pas du tout, parce que quand on
mais regarde la façon dont tu as couru.
Regarde l'étape de Culoz. Même son directeur sportif, il en voulait. Son manager, il en voulait au directeur sportif de l'avoir mal conseillé. Alors là, je pose des questions quand même.
Bon, on reparlera évidemment de Julien Alaphilippe, qui a tout l'avenir devant lui et qui est un sacré coureur. Il nous a quand même régalé, même
heureusement qu'il était là aussi,
un peu de stratégie. Dans un instant, nous allons parler de deux autres coureurs qui vont terminer premier et deuxième de ce Tour de France. Chris Froome qui rejoint Louison Bobet et Greg LeMond dans la légende. Trois victoires dans ce Tour de France. Et puis Romain Bardet qui lui ambitionne, pourquoi pas, d'aller décrocher une première victoire dès l'année prochaine. On en parle dans un instant dans l'intégral Tour en direct de Morzine jusqu'à 20h.
RMC Intégral Tour, Christophe Cessieux.
Toujours en direct de Morzine pour l'avant-dernière étape de ce Tour de France 2016. Les coureurs du peloton qui, au sommet de Jouplane, tout à l'heure, ont aperçu la Tour Eiffel, même s'il y avait quand même pas mal de brouillard, pas mal de
nuages. Ils n'ont pas dû voir grand-chose.
Ils n'ont pas vu grand-chose. Mais demain, ils verront la Tour Eiffel, ils verront les Champs-Élysées surtout et l'Arc de Triomphe pour cette dernière étape qui s'achèvera aux alentours de 19h et que l'on suivra demain à partir de 16h dans l'intégrale Tour de France. Une grande boucle qui va donc couronner une troisième fois un certain Christopher Froome. On va écouter le maillot jaune de ce Tour de France qui évidemment était un peu inquiet après sa chute d'hier et ses légères blessures. Aujourd'hui, eh bien, il n'a pas été attaqué et c'était évidemment le grand soulagement à l'arrivée de l'étape. Christopher Froome.
Such a feeling of relief.
C'est un tel sentiment de soulagement.
Obviously, also in that way, just with my teammates all around.
De gagner une nouvelle fois.
Oui,
j'étais marqué par ma chute.
The legs were better than they were yesterday.
Mais les jambes étaient meilleures que ce qu'elles étaient hier.
What can I say?
Just
so relieved.
Je me sens si soulagé. Soulagé d'avoir terminé cette étape.
Just kept on raining on and off. It was just feels so good to have that out the way now.
Bon d'avoir fait le chemin et d'y être maintenant.
Voilà, Christopher Froome soulagé, on le comprend, parce qu'hier il a quand même été mis à mal avec cette chute, qu'il n'a pas laissé trop de séquelles, mais après une chute comme ça, avec le temps qu'il faisait aujourd'hui, avec cette descente vers Morzine, il y avait quoi être inquiet quand même, Jérôme?
Oui, être inquiet, certes, mais il a jamais été inquiété non plus. Hein. Il a jamais été mis en difficulté par ses adversaires. Personne n'a rien tenté. Donc, on ne saura jamais si Froome aujourd'hui était dans une bonne ou une mauvaise journée, puisque personne derrière n'a osé le mettre un peu dans les cordes, essayer de le mettre en difficulté dans la descente de la Rama, pourquoi pas, dans la montée de Jouplane, tout le monde était content d'être là, donc finalement on le saura jamais. Lui dit qu'il avait des bien meilleures jambes que hier, c'est aussi un peu de communication, sûrement, mais en tout cas il a été supérieur tout au long de ces trois semaines et finalement c'est un logique vainqueur sur ce Tour de France. Ce qui est le plus déplorable entre guillemets, c'est qu'on a assisté à un pacte de non-attaque de ses adversaires, de non-agression depuis le départ surtout, et que ses adversaires
mis à part hier
Romain Bardet, qui est l'un des seuls outsiders de ce Tour de France à avoir osé quelque chose dans les étapes difficiles.
Cyril, il n'y avait rien à faire aujourd'hui. Oui Thierry.
Oui, excuse-moi Jérôme, quand tu dis que personne ne l'a attaqué hier, les gens ont essayé d'attaquer. Les adversaires ont attaqué, à part Bardet. Non. Jérôme disait, à part Bardet, les coureurs ne l'ont pas attaqué, mais ils l'ont attaqué.
On parle de l'étape d'aujourd'hui, là, Thierry. On parle pas de celle d'hier. On a fait les débats
aujourd'hui.
Déjà
aujourd'hui, je pense que tout le monde était content de rester dans la roue des Sky, hein. Tout le monde est à sa logique place.
Ouais, il y avait rien à faire pour mettre à mal la
dernière fois.
Il y avait pas de quoi au moins essayer d'aller voir ce qu'il avait dans le moteur aujourd'hui, Chris Froome. Je sais pas, mais tenter quelque chose, Cyril. Après, on écoutera Thierry.
Bien, moi, je pense qu'on aurait dû au moins titiller,
au moins
essayer de monter un peu le rythme dans l'ascension, de voir si il se passait quelque chose. Et puis, il y avait quand même aussi la possibilité dans la descente de la Ramaz de mettre la pression sans prendre des risques énormes. On n'est pas obligé de prendre des risques énormes pour mettre de la pression. À aucun moment, un des leaders, enfin, un des cinq premiers du classement général ou des six premiers n'a essayé à un moment ou à un autre de mettre un petit peu de pression, sans même parler d'attaque, même de pression. Il y a eu un acte, il y a eu une étape avec un pacte de non-agression, et tout le monde était content de finir ensemble. Ils ont juste été obligés d'accélérer dans le final, parce qu'il y en a qui ont perdu leur place avec, avec la passivité dont ils ont fait preuve, dans, même dans la descente de Jouplan, puisque Rodriguez a quand même remonté de 3 places aujourd'hui, quoi.
Je pense que tout le monde était content et il n'y avait pas d'équipe. Quelle équipe, Cyril, tu pouvais penser mettre en difficulté Froome et son équipe Sky?
D'accord, dans les ascensions, Thierry, mais dans les descentes, dans la descente du col de la Rama,
oui,
il
n'y
avait pas quelque chose à faire, aller tester Chris Froome, voir s'il avait le moral pour aller attaquer cette descente. Je sais pas, moi. Tu aurais pas tenté quelque chose si tu avais été deuxième au général ou troisième pour aller chercher une petite place de mieux?
Oui, à une minute. À 2 minutes à la rigueur, mais 4 minutes et quelques. Je pense que Bardet était content de vouloir garder cette deuxième place, il faut le dire. Et puis Quintana n'avait pas l'équipe pour essayer d'aller mettre en difficulté la Sky et Froome. Yates, bah, c'est la même chose. Richie Porte, on n'en parle pas. Et puis après, il y avait qui pouvait mettre jusqu'à présent. Bon,
en conclusion, fallait arrêter le tour hier et puis monter tranquillement.
Mais non,
tranquillement à Paris aujourd'hui, et puis faire la parade demain aux Champs-Élysées.
Heureusement qu'il s'est passé des choses hier quand même, Thierry, parce que selon ta logique, on n'aurait rien fait dans ce Tour de France, hein.
Mais je suis d'accord avec vous. J'aurais aimé de voir une bataille. Mais si je résume la journée d'aujourd'hui, c'est que personne n'était capable de le faire.
Non, mais bon,
les seules équipes qu'on a vues à la table et à mettre à difficulté Froome et son équipe, c'est Katusha un tout petit peu hier qui a aidé un peu.
Astana, encore une fois aujourd'hui.
Oui, mais Astana,
et puis on a
aujourd'hui,
vu
Astana,
une nouvelle fois Astana avec un roue qui a pété.
Astana, aujourd'hui, ils avaient un coureur devant.
Ouais. Il y a quelque chose quand même qui m'interpelle, moi, dans ce qui s'est passé aujourd'hui. Alors certes, peut-être pas dans la Rama parce qu'il avait peut-être pas l'équipe, mais Yates, il a quand même fait rouler son équipe dans la vallée pour aller jusqu'au col de Jouplan. Et Yates, il va échouer à 21 secondes du podium du Tour de France. Il a même pas mis un sac, il a même pas essayé de faire la descente vers Morzine. Comment tu peux rester impassible comme ça alors que t'es à 21 secondes d'un truc qui, ça se trouve, t'arriveras plus jamais? Au même, pareil que pour Richie Porte. Moi, je sais pas. Bourgui, je pense que t'es comme moi. Si t'as des jambes comme Yates et que tu vas faire 4 du tour et si tu loupes un virage, bah, tu vas faire 6. Mais purée, tu t'essayes d'aller prendre tous les risques pour faire sur le podium. Moi, je suis sûr que Yates,
il
essaye de prendre des risques dans la descente, je suis à peu près persuadé qu'il lâche Quintana et qu'il lui prend 20 secondes. Il a même pas essayé, c'est ça qui est ahurissant. Ouais,
mais Yates, vu la condition qu'il avait hier, je sais pas si les jambes étaient.
Oui, mais Bourgui, une fois basculé la joue plane, c'est plutôt des qualités de pilotage, c'est plus la force.
De descendeur. Oui, mais je crois qu'ils étaient transis de peur.
Ah ouais,
et
putain,
la plupart des coureurs. Non, mais ça,
tu crois ou t'es sûr?
Mais j'en suis persuadé,
c'est mecs, sûr.
Ils se pissaient dessus dans la descente.
Bah, ça se pissait dessus en tout cas.
Oui, mais après toutes les chutes qu'il y a eu hier, j'ai l'impression que les mecs.
Bah, il n'a pas fait vol par terre hier.
Hein. Non, mais il a certainement une raison. Il y a certainement une raison, mais il doit y avoir de la frustration chez ces coureurs-là.
Bon, en tous les cas, c'est vrai que la pluie hier.
Il y a un manque de. Non, il y a un problème quand même. Je suis désolé.
Cyril,
hier, il a raison, Jérôme. T'es à 21 secondes. Tu fais au moins la descente de Jouplan. Quand il a fait quand il s'est pris la flamme rouge sur le dos, il avait quand même largué tout le monde dans la descente.
Ah oui. Dans la descente sèche.
C'est ce qui lui a permis d'aller chercher le
maillot. Non, mais peut-être que désormais, dans le Tour de France, on finit le tour après la 19e étape. Hein. Sait-on jamais, finit après la 20e étape.
En tout cas, Froome n'a pas réussi son exercice.
Tout le monde était content d'être à sa place. Et c'est vrai qu'on peut regretter autant la deuxième et troisième place. On peut dire que Bardet et Quintana étaient contents de garder leur place. Mais c'est vrai que quatrième, cinquième, quand on voit le peu d'écart qu'il y a, c'est vrai qu'ils ont rien fait pour essayer d'aller chercher.
C'est le coup de chapeau qu'on doit
regretter, ça.
C'est encore un plus grand coup de chapeau à Romain Bardet parce que, moi je suis désolé, c'est le seul qui a essayé des choses. On peut être que très heureux de sa seconde place parce que lui, il est allé la chercher. Moi, Quintana troisième.
Quintana troisième.
Oui. Sur une étape. Mais c'est déjà bien, les autres, ils ont même pas essayé une fois.
Même pas essayé une fois. Ouais. Alors, tout s'est joué sur une étape et sur une attaque.
Moi, pour moi, l'image de ce tour, c'est un peu le résumé de ce tour, c'est la troisième place de Quintana, quoi. On l'a pas vu et il est sur le podium.
Donc, on va résumer un tour de suiveur.
Ouais, exactement.
Sauf pour Romain Bardet, juste un mot sur la pluie. C'est vrai qu'hier elle nous a offert un spectacle incroyable. Aujourd'hui on a l'impression qu'elle a au contraire freiné les coureurs qui n'ont pas osé. C'est vrai qu'ils ont peut-être eu peur de ce qui s'était passé hier et de tout perdre, parce que perdre une place sur le podium, perdre une place dans le top 5 aujourd'hui, ils n'ont pas voulu prendre ce risque, Cyril.
C'est dommage, mais est-ce que c'est eux qui n'ont pas voulu prendre ou c'est les staffs?
Ouais, c'est un peu des deux, à mon avis. Ouais.
Bah, les points, Cyril, là, ça coûte cher.
Ah, il y a les points UCI, j'avais oublié.
Mais oui, tu sais,
ces trucs. J'avais oublié que le Tour de France rentrait dans un classement général de l'année.
Ils sont pires que les oreillettes, les points UCI.
Ah, mais ça bousille tout.
Bon, messieurs, un petit mot de Chris Froome. Donc, troisième victoire dans le Tour de France. Bon, c'est une victoire méritée. On va surtout pas remettre ça en cause.
C'est une des plus belles victoires qu'il ait eues. Pour moi, c'est la plus belle des trois.
Ouais, c'est vrai qu'il a fait preuve d'audace. Il a attaqué dans les descentes, il a attaqué dans le vent, il a attaqué à pied dans la montée du Ventoux, et puis il a quand même fait une très belle course, Cyril. C'est un beau vainqueur du Tour de France.
Je pense que Michel Jazzy, qui regarde les arrivées du Tour de France, a dû être surpris de la foulée du Kenyan. C'est normal qu'il sache courir. Non, mais je crois que sur ces trois victoires, c'est celle qui sera la plus probante, celle qui sera que l'on retiendra, parce que pour la première fois et depuis longtemps, on n'a pas eu de suspicion sur ce tour à ce jour. Peut-être que ça viendra plus tard, alors que les autres années, pas seulement d'ailleurs pour Chris Froome, mais également pour d'autres, il n'y a pas eu de fulgurance. Il y a eu des choses qui se sont faites à la pédale, doucement, mais il n'y a pas eu, vous savez, ces envolées telles qu'on a pu les voir ces dernières années. Donc on a eu quelque chose qui était cohérent dans le déroulement de la course, et ça, c'est quand même vachement réconfortant. Et à ce titre, oui, on peut dire que Froome est un beau vainqueur.
Et surtout qu'il a pris du temps en quatre actes, quoi. C'est la première fois la descente à Bagnères. Il reprend un peu de temps dans les bordures, au Ventoux. Alors bon, avec ce qui est arrivé après, mais il avait largué tout le monde au Ventoux.
Elle est pas bonne.
Et le contre-la-montre, les deux contre-la-montre. Voilà, terminé. Après, il a été le plus fort dans les points les plus stratégiques du tour. Normal qu'il gagne, il sait tout. Comme tu le dis, Cyril, sans aucune contestation possible, et même, on peut pas élever de soupçons par rapport à sa propre performance à lui, pure. Son équipe, est très homogène. Voilà, c'est un peu ce qui nous a interpellé le plus, mais lui, voilà, il accélère, il s'envole pas dans l'école comme on a pu voir certains anciens vainqueurs du Tour s'envoler et
lui-même
éclater
aussi,
là ça s'est fait petit à petit, c'est très bien construit à l'image d'une équipe Sky qui maîtrise tous les détails.
Tiens, Pascal est avec nous au 32-16. Je voulais intervenir dans le débat. Bonsoir Pascal.
Oui, bonsoir toute l'équipe.
Bonsoir Pascal. Je crois, Pascal, que vous voulez nous parler du troisième du Tour de France, un certain Nairo Quintana. Tiens, je l'avais oublié celui-là.
Ah oui. Bah, à mon avis, on peut l'oublier, parce que c'est ce que je disais à la personne que j'ai eue au standard. Je pense que Quintana, on l'a peut-être un peu monté bien trop haut dans l'équipe, enfin tous autour de nous, quoi. Et en fait, c'était mon coup de fil, c'était le bilan du Tour de France et puis de la journée d'aujourd'hui. C'est décevant par rapport, et puis c'est ce que j'ai entendu aujourd'hui toute la journée, c'était pas à Romain Bardet d'attaquer aujourd'hui, quoi. Il y avait des dizaines de secondes qui jouaient derrière lui et on a vu personne qui était capable d'attaquer, quoi. C'est décevant par rapport à derrière Bardet, quoi. Et donc je voulais juste féliciter Romain qui a fait le tour nécessaire et puis qui est glorieux pour nous. Et puis et j'entendais ce que vous avez dit juste avant, Froome a fait le tour nécessaire aussi pour qu'il n'y ait pas de discours d'ambiguïté derrière, quoi.
Alors, j'entendais ce matin dans les grandes gueules du sport le débat concernant Quintana, certains de nos éditeurs reprochant à la presse d'avoir monté Quintana trop haut. Mais quand on regarde la saison 2016 que fait Quintana, on ne pouvait en faire qu'un rival à égalité avec Chris Froome.
C'est pire que ça. Voilà quelqu'un qui est monté déjà deux fois sur le podium.
Deux fois deuxième.
Et oui. Deux fois deuxième. Oui. Attends, on peut pas dire qu'il a. On peut pas le monter. C'est pas possible de.
On n'a pas monté ça de manière artificielle. Mais non.
Il y a du concret derrière. Il y a de la réalité. Deux fois deuxième du Tour de France. On peut pas dire que c'est pas un candidat à la victoire.
Non, mais par contre, je retiens bien ce que, et puis Monsieur Guimard, ce que vous avez dit, qu'on a l'impression que Monsieur Quintana, il est bien content d'être deuxième en finalité, quoi.
Ah ben là, il est troisième.
Oui, oui, bah, d'autant plus cette année. D'autant plus, et puis, d'autant plus fier que ce soit Romain qui soit deuxième.
Ça s'entend votre accent, hein, Pascal.
mais c'est vrai que et puis j'ai écouté régulièrement les on va dire les étapes et ça a été dit et redit qu'on avait l'impression que Quintana se contentait de la deuxième place.
Non mais Quintana, c'est clair, Quintana, il s'est passé un truc dans son tour, c'est qu'il a essayé d'attaquer au Ventoux, c'était là qu'il avait prévu de mettre Froome en difficulté et au Ventoux, il a pris une gifle énormissime. Il est parti deux fois, il s'est fait contrer une fois par Froome et Froome l'a largué avant que la moto l'arrête, mais il l'avait fait péter, donc
à mon avis après Quintana, on peut pas dire contrer, puni.
Il l'a puni, voilà. Donc quand tu te fais punir une fois, après tu cours pour la place de deux. Hein.
De toute façon, Quintana, il peut être que content de faire troisième cette année, hein, parce que
c'est un miracle,
avec la pente qu'il a montré, avec ce qu'il nous a montré pendant trois semaines, c'est un miracle. Je pense qu'il en est conscient.
Merci Pascal, en tous les cas, d'être venu au 32-16 pour nous livrer votre analyse sur ce Tour de France qui s'achèvera donc demain. On reviendra demain évidemment sur la performance de Romain Bardet qui monte pour la première fois de sa carrière sur le podium du Tour de France. Il n'a pas encore 26 ans, il a tout l'avenir devant lui et c'est vrai que c'est un formidable coureur qui nous a enthousiasmé hier dans cette étape à l'arrivée à Saint-Gervais. Dans un instant, on va évoquer l'étape de demain, on va revenir sur les paris, on va peut-être repenser à un certain Brian Coquard, hein, qui va peut-être lui en claquer une d'ici la fin de ce Tour de France.
Ça y est, il a la banane. Jérôme.
Ouais. J'espère que tu l'auras demain soir dans le tour de 19h, la banane. Hein.
J'espère aussi.
Allez, on en parle dans un instant, toujours en direct de Morzine à l'occasion de cette 20e étape du Tour de France, l'avant-dernière étape de la Grande Boucle.
RMC Intégral Tour. Christophe Cessieux.
Et oui, nous sommes toujours à Morzine ce soir avant de faire un gros retour vers la capitale où aura lieu demain la 21e étape de ce Tour de France qui s'élancera de Chantilly avant de rallier les Champs-Élysées pour l'arrivée finale et triomphale de Christopher Froome. Il reste donc une dernière étape, mais est-ce vraiment une étape? On va en parler dans un instant. On va accueillir Benji tout d'abord.
PMU.fr, Paris Sportif, Paris Flic, Poker.
Benji qui nous rejoint pour les paris. Salut Benjamin.
Salut messieurs.
Salut.
Personne n'avait pronostiqué la victoire d'Izaguirre tout à l'heure. Même en deuxième chance pendant l'étape, personne ne l'avait donné, je crois.
Effectivement, le plus proche à la fin, c'est Bourgui avec la 8e place de Purito Rodriguez.
8e place, c'est bien, ouais. Voilà.
Moi, je fais 10.
Ah bah, c'est super, même.
Pas terrible cette année. Hein. Je pense que l'arrivée de Jérôme Pinault nous a tous déconcentrés, j'ai l'impression.
Oh, c'est de sa faute.
Voilà qui est facile, monsieur.
Non, mais c'est un constat.
Bon, alors là, il reste une étape. Est-ce que le classement général est déjà joué, Benji, ou est-ce qu'on a encore une chance d'aller chercher des maillots? Je sais pas.
Non, tout se joue à part le maillot à poids qui est la possession de monsieur Thierry Bourguignon. C'est le seul maillot qui est joué. Bravo Bourgui, tu es maillot à poids. Ah ouais. Depuis la création des paris RMC Tour de France, Bourgui, chaque année, il a au moins décroché un maillot. Ouais. Donc félicitations.
Dis donc, mais la victoire finale, on l'avait joué ça aussi en début de Tour de France. Il me semblait que certains avaient.
C'était Loro, mais en tout cas, je ne l'ai pas fait.
Tu rigoles ou quoi?
Il faudra demander à Benoît Boutron, mon collègue, parce que j'étais pas là.
Ouais, c'est ça.
Moi, j'avais dit Froome, je crois.
Franchement, les commissaires des paris RMC cette année n'ont pas été à la hauteur. Un peu comme les commissaires de l'UCI. On va porter réclamation avec Cyril parce que nous avons.
J'avais mis Froome, Bardet. Non,
moi aussi, je crois que j'avais dit
non.
Ça.
Non, vous êtes des arnaqueurs. Vous êtes des arnaqueurs.
Tous les deux, on l'a mis.
Vous aviez tout.
Qui c'est qui est maillot jaune, là, pour l'instant?
Monsieur Cyril Guimard.
Ah ouais, non.
Merci.
Oh là, il savait, il a fait confirmer.
Bourgui a piqué le maillot vert de Christophe Cessieux grâce à la 8e place de Rodriguez.
Grâce à une 8e place, il me prend le maillot vert. Non, mais je rêve.
Et Quintana m'a donné les conseils.
On m'a squeezé sur une étape. Hein.
Mais d'abord, on m'a squeezé sur la victoire finale de Chris Froome. J'étais le seul à l'avoir donné.
Le bureau des plans.
Bon, Bon, bref, bref, cette année, je pense que un peu comme à l'époque Armstrong, on ne va pas comptabiliser la victoire dans les paris de Cyril Guimard demain. Voilà, on va l'effacer les palmarès. Ce sera mieux. Bon, il reste quand même une petite étape sur laquelle on va parier, cette 21e étape, départ donc de Chantilly demain aux alentours de 16h à 16h05 très exactement. Le départ réel à 16h35. On sera en direct avant même le départ de cette étape pour une arrivée sur les Champs-Élysées aux alentours de 19h, 19h15. 116 km à parcourir, une étape qui débutera à l'arrivée sur les Champs-Élysées parce qu'avant évidemment il ne va rien se passer mis à part quelques coupes de champagne. C'est la parade du Tour de France. Franchement, c'est une étape qu'on apprécie quand on est coureur. On l'apprécie, Jérôme.
Bien sûr. Bien sûr, c'est le meilleur moment du Tour. C'est l'arrivée sur les champs, c'est quand on sort du tunnel.
Mais pourquoi, ne pas faire comme au championnat du monde de patinage artistique, par exemple? Vous avez la compétition, et puis le dernier jour, vous avez le spectacle. Une sorte de critérium.
Non, parce que c'est que ça reste sur les champs, ça reste une course. Les gens viennent aussi voir une course. Ah oui. Et critérium, on en fait tout le mois d'août.
Elle joue plus pour
le
classement général.
Elle joue plus, non, parce qu'elle est toute plate, parce que voilà, maintenant c'est organisé, mais non, je trouve ça très bien, moi, je trouve que ça fait partie de la tradition, il y a un vrai défilé jusqu'aux Champs-Élysées, l'organisateur a fait quelque chose de très intelligent depuis de nombreuses années, c'est une étape qui est très courte, donc voilà, on passe pas 4h30, 5h à parader dans toute la région parisienne, et puis après, il y a une vraie course, parce que pour les sprinteurs, c'est aussi le moyen pour les sprinteurs de les laisser dans la course, si on fait pas cette course-là, s'il y a plus de points pour le maillot vert, si ça fait pas partie d'une étape et ça fait pas partie du Tour, les mecs ils rentrent tous à la maison alors que là ils restent pour cette étape là donc moi je trouve que c'est un fait
c'est, d'ailleurs non, c'est pour ça que je vais jouer fête, c'est pour ça que je vais jouer Cavendish parce que Jérôme nous avait dit qu'il allait jusqu'à Paris.
tu peux il peut perdre son maillot jaune sur ce coup là tu as bien enregistré Benji victoire
ouais,
de Cavendish pour les Druides,
c'est noté,
hein,
ça.
Très bien, je vais donner moi Marcel Kittel. Ah bah tu vas nous donner les codes tout de même pour
ah bah oui, avant il faut nous connaître les codes.
Et le favori c'est justement Marcel Kittel, il est à 2,25 derrière André Greipel à 5,60, Peter Sagan à 6. Moi je vais écouter celui qui va pouvoir payer l'apéro demain parce que lui il s'est gavé pendant tout le Tour de France, il est à côté de moi, c'est Marcel Fernandez. Je peux vous dire que lui il a tapé juste, on va le recruter pour l'année prochaine. Il s'est bien gavé là, ça le fait rire. Mais je vais jouer Christophe, pas, Alexander Christophe, pas Christophe Cessieux évidemment, code de 8.
Oui. Alexander Christophe pour Benji.
Et oui. Benji, la cote de Brian c'est quoi?
Et Cocard, il arrive dans un second rideau, il est à 12, c'est la même cote qu'Alaphilippe.
Là, tu peux prendre le maillot jaune, Jérôme.
Voilà.
Tu vas tout miser.
Cocard. Tout sur Cocard. Je vais lui mettre une pression.
Il a intérêt à gagner, autrement, c'est râpé. Donc, Cyril, tu confirmes Cavendish?
Mais non, il est pas là. Il est pas là parce qu'il s'est fait blouser quand même, Jérôme. Tu t'es fait mettre
c'est
dans
à cause
farine,
de la fédération britannique.
Ah hein, oui, moi, oui, on trouve un avis.
Mon avis, c'est pas la fédération britannique.
Oui, attends, si Cocard gagne, il me saute, Jérôme, là?
Loin de
ça
moi
dépend
cette idée.
Ce que tu joues.
Ça dépend. Et tu y as même pensé, tu vois?
Non, mais moi il faut que je joue
stratégique. Voilà, tu vas faire comme tous les suiveurs du Tour de France. Voilà,
comme aujourd'hui dans l'étape. Donc je vais jouer Cocard.
Ok. Eh bien, c'est enregistré.
Comme ça, s'il gagne, moi aussi, donc je reste maillot jaune.
D'accord.
Je la fais à la Froome.
Bon, et moi.
Froome.
Bon, tu as bien enregistré mon.
Froome qui suit, hein, c'est.
Non, je fais une Froome.
Et toi, Christophe?
J'ai donné Marcel Kittel. En
Christophe
espérant
prend beaucoup de risques, hein, cette dernière semaine, Christophe.
Non, mais je l'ai donné avant qu'il ne donne les cotes.
Je pensais pas. Une plus grosse cote qu'Adrien Petit, tu vois. Et pourquoi pas une victoire en solitaire après celle de Eddy Senior et dernièrement de. Dernier, c'est Vinokourov.
Ouais, Vinokourov.
Pantano, non?
Pantano, il peut nous le faire.
Tous les jours devant Pantano. Et demain, il le sent encore.
Non, c'est pas Pantano, c'est Machka qui va battre Pantano.
Ah oui, pratiquement. Oh, les deux sont pas mal hein, aussi.
Bon,
hein.
Le seul, ça, bon, moi, je vais jouer Sagan.
C'est ce que j'allais dire, Christophe. Ouais. C'est lui qui peut s'imposer en solitaire. Tu vois, une petite touche spectaculaire demain, Sagan peut gagner en solitaire demain.
Ok, aujourd'hui.
Et sur une roue.
Aujourd'hui, il a fait l'étape en. Une drôle d'étape. Sagan, il était à bloc pendant les premiers kilomètres. Il a emmené Kreiziger dans sa roue avant de mettre le clignotant et de terminer avec une demi-heure de retard sur la ligne d'arrivée ici à Morzine. Merci pour les paris, on se retrouve demain évidemment pour parier sur cette dernière étape. Merci Benji.
PMU.fr, paris sportif, paris hippique, poker.
Jouer avec excès comporte des risques. Appelez le 09 74 75 13 13. Appel non surtaxé.
Voilà, une dernière petite pensée ce soir à notre ami Guy Kedia qui nous a donc quitté ce matin. Si vous étiez à l'écoute de l'Intégral Tour tout au long de la journée, on lui a rendu hommage. On lui envoie des grands baisers là-bas dans le ciel et on pense évidemment très fort à sa famille Guy, qui nous a accompagné sur RMC, qui a accompagné la route du Tour pendant plus de 30 ans et qui est donc parti ce matin. Voilà Martial, maintenant bah, c'est place à la suite du Tour de France, parce que je crois que c'est pas fini. Il y a quelques questions d'auditeurs.
Exactement, le 32-16, le hashtag RMC là avec Thierry Bourguignon qui reste avec nous, avec Luc Leblanc aussi qui arrive, et puis à 20h30 le foot, Frédéric Hant, l'entraîneur de Montpellier, sera avec nous dans l'Intégral Sport, et les filles de l'équipe de France qui visent une médaille aux Jeux Olympiques. Leur dernier match amical, c'est ce soir, c'est à Auxerre, c'est à guichet fermé, et on y sera.